Imaginez que vous recevez un SMS sur votre téléphone portable qui vous dit « je t'aime ». Comment est-ce que vous allez recevoir ce message ? En fait, ça dépend qui l'envoie. Si c'est ma femme qui l'envoie, je reçois ce message avec beaucoup d'émotion et je le reçois comme il faut. Mais si c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connais pas, il est clair que je vais me méfier de la personne qui m'envoie ce message. Et on peut dire une chose similaire de la part de l'amour de Jésus et de l'amour de Dieu. Que signifie l'amour de Jésus pour une personne qui ne le connaît pas ? Si ce n'est pas grand-chose. Et que c'est même une affirmation qui peut être douteuse, dont je vais me méfier. L'amour de Dieu et de Jésus a du sens pour qui le connaît. Au même titre que si je reçois un message de quelqu'un qui me dit « je t'aime », cela peut être mon épouse, cela peut être un membre de ma famille, cela peut être un de mes enfants. Le message va avoir du sens parce que je les connais et parce que je suis en relation avec eux. Et ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous connaissez de Jésus ? Qui est-il pour vous ? Et je vous invite à la lecture d'un texte dans l'Évangile de Marc, un récit que je suppose vous connaissez. Un récit qui est certainement un des tout premiers que l'on raconte aux enfants, tant il est simple et extraordinaire à la fois. Je vous propose la lecture des 10 premiers versets, Marc chapitre 8, et je lis dans la version du Semeur. Marc, chapitre 8, les versets 1 à 10. En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où pourrait-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?»« Combien de pain avez-vous ? » leur demanda-t-il. « 7 », répondirent-ils. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre, il prit 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule, ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4 000 hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Un récit qui est simple. Un épisode de la vie de Jésus. Et j'aimerais tirer 3 enseignements à partir de ce récit et un 4e que je détaillerai dans ma conclusion. Mais avant de développer le premier point, j'aimerais vous faire part sur une observation globale qui concerne ce texte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je connais ce texte, je l'ai lu et je l'ai relu des dizaines de fois et à chaque fois j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose de ce texte dans la lecture. Jusqu'au jour où j'ai compris ce que je ne voyais pas et que quelque part mon intelligence cherchait à voir. Et je vais l'illustrer de la façon suivante. Le cadet de nos enfants, Léo, quand il rentrait de primaire, je lui posais la question « Léo, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ?» Question peut-être que vous posez aussi à vos enfants. Et Léo me répond « Papa, j'ai marqué 3 buts au foot à la récré. » En fait, vous avez compris le sens de ma question. Je m'attendais à ce que Léo me dise les matières sur lesquelles il a travaillé durant la journée. Et qu'a fait Léo ? Léo m'a rapporté l'élément le plus important de sa journée, c'est qu'il avait marqué 3 buts. Et que l'information capitale la plus importante, c'était ça. Et c'est un peu ce qui se passe dans le récit de Marc. Imaginez-vous être à la place de quelqu'un qui rencontre une personne qui a vécu ce miracle. En fait, il est surprenant que le texte ne réponde pas à des questions qu'on se pose tous. Et quelles sont ces questions ? La question, quand on vous parle de ce miracle, qui brûle les lèvres de chacun, ça serait laquelle ? Mais comment ça s'est passé ? Comment la multiplication s'est faite ? Le texte ne nous dit rien de ce qui, pour nous en tant que lecteurs, sont les premières questions qui s'imposent à notre curiosité. Et puis, il y a les questions qui vont avec. Mais ce pain, il avait quel goût ? Plutôt salé, pâte levée. Et les poissons ? Les poissons séchés, grillés, crus ? Le texte ne dit rien. Pour quelle raison ? Je pense un peu comme pour mon fils Léo, parce que pour Marc, qui était témoin, en tout cas qui rapporte, hein, c'est Pierre, hein, l'apôtre Pierre qui est derrière l'évangile de Marc, en tout cas pour Pierre qui rapporte cet événement au travers de la plume de Marc, il y a d'autres choses qui étaient bien plus importantes que ces questions qui peuvent se poser de manière naturelle. Et me semble-t-il qu'il y a au moins 3 choses dans ce miracle que j'aimerais détailler avec vous. La première chose, c'est ce qui a poussé Jésus à faire ce miracle. Le texte nous dit que Jésus, voyant la foule, fut pris de pitié pour elle. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Ces hommes et ces femmes qui ont laissé leur activité pour suivre Jésus pendant 3 jours. Manifestement, ce n'était pas un week-end d'église organisé où il fallait s'inscrire à l'avance. Jésus est arrivé dans une région, le bouche à oreille a fonctionné et les gens ont laissé les activités qu'ils étaient en train de faire pour suivre Jésus. La vie s'est arrêtée. Et tout le monde est allé auprès de Jésus. Ils sont restés là 1 heure, 1/2, 1/2 journée, le soir ils se sont arrêtés, ils sont restés avec Jésus. Le lendemain ils étaient toujours là, jusqu'au soir et encore jusqu'au surlendemain, et nous sommes au 3e jour. Bien sûr que les estomacs devaient gronder, bien sûr que la faim était là, mais ce que disait Jésus était tellement extraordinaire que les gens étaient suspendus à ses lèvres, et que le temps s'était arrêté, et que la faim peut-être ne se faisait même plus ressentir. Tellement cet homme était extraordinaire. En tout cas, c'est ce que nous dit la fin du chapitre 7, c'est-à-dire juste avant notre récit, ce que la foule dit de Jésus, tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et fait parler les muets. Je me souviens, dans le village dans lequel j'ai grandi, Stadtmatten, que vous connaissez tous, j'imagine, petit village de 600 habitants au nord de l'Alsace, le long du Rhin. Il y avait au centre de ce village le terrain de foot. C'est pas commun d'avoir le terrain de foot qui est vraiment au centre du village. Et notre maison, la maison où j'ai grandi, était toute proche de ce terrain de foot, c'est-à-dire depuis le fond de mon jardin, je voyais le terrain de foot. Et il est arrivé l'une ou l'autre fois qu'une montgolfière est venue atterrir sur ce terrain. Ça, c'était l'événement dans le village. En fait, tout le monde s'arrêtait. Le boucher était autour du terrain de foot, toutes les personnes du quartier venaient se rassembler autour de ce terrain parce que c'était l'événement à ne pas manquer. Et pendant quelques minutes, peut-être une petite heure, la vie s'arrêtait dans le village parce que tout le monde était au terrain de foot pour voir cette montgolfière qui descendait. Et il en est de même pour cette foule qui suit Jésus depuis 3 jours. Et voilà que se pose une question matériel, essentiel, fondamental. Ces gens ne peuvent plus rentrer chez eux parce que les forces vont leur manquer. Et Jésus veut répondre aux besoins de cette foule. J'y reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce qui motive Jésus à opérer le miracle? C'est sa pitié. Un peu plus tôt dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, en fait, nous avons déjà une multiplication du pain. Et il est significatif que, là encore, quand Jésus voit la foule, il nous est dit, au verset 34, qu'il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et à deux chapitres d'écart, nous avons cette même expression qui revient. Premier miracle de la multiplication des pains, Marc chapitre 6. Deuxième miracle de la multiplication des pains, Marc chapitre 8. Nous y sommes. Et à chaque fois, Jésus fut pris de pitié pour la foule. Et ce qui est significatif, c'est que dans le texte grec, c'est deux fois le même verbe. Jésus parle en hébreu, en araméen. Le texte que nous avons est en grec. Mais la pensée est d'abord une pensée sémite dans la culture des auteurs de cette époque, et la langue hébraïque est une langue qui est très imagée. Et dans le texte, dans le sens du mot qui est utilisé, c'est-à-dire le mot grec qui traduit cette pensée, on va dire juive, des auteurs, la formulation c'est « pris dans les tripes, saisi dans les entrailles ». Voilà ce que signifie le texte « J'ai pitié de cette foule ». Vous savez, c'est un peu comme cette décharge d'adrénaline que l'on peut ressentir lorsqu'on éprouve une émotion qui est subie et instantanée. Vous l'avez jamais senti montrer, ça vous prend aux tripes. Et c'est exactement ce qui se passe pour Jésus. Ce qui motive Jésus à opérer ce miracle, c'est sa compassion, sa pitié pour la foule qui est présente à ses côtés. Qui est cette foule? Tout au long de l'évangile, on se rend compte que ceux qui côtoient Jésus sont des hommes et des femmes de toute catégorie sociale. Il y a les spécialistes de la loi, les hommes religieux qui étaient connus de tous, mais vous aviez aussi des infirmes. Des gens qui vivaient de manière très simple. Il y avait des paralytiques, des gens qui étaient malades depuis des années. Il y avait des gens de mauvaise vie, notoirement connus pour être des êtres corrompus, les collecteurs d'impôts. Il y avait aussi dans cette foule peut-être des homosexuels. Des gens que tout le monde rejetait. Mais comment Jésus considère-t-il toute cette foule, tout cet ensemble de personnes, comment les considère-t-il? Il fut pris de pitié pour cette foule. Et nous avons ici le regard de Jésus sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le regard de Jésus n'a pas changé. Comment Jésus regarde-t-il les hommes et les femmes de ce monde? Il les regarde avec pitié. Et cela nous interroge sur le regard que nous portons sur la foule qui nous entoure. Si nous nous réclamons comme disciples de Jésus, comment considérons-nous tous ceux qui nous entourent? Nos collègues de travail? Ceux qui vivent dans un mode de vie qui est à l'opposé du nôtre? Ceux qui ont des valeurs qui sont aux antipodes de notre, les truands de ce monde, les gens qui vivent dans l'immoralité de ce monde, comment les regardons-nous? Est-ce que nous les regardons avec le même regard de Jésus-Christ? J'ai pitié de cette foule. Ou alors avons-nous nos petites catégories de listes de personnes, ceux qui ont droit à l'évangile et ceux qui n'y auraient pas droit, ceux qui sont dignes d'entendre le message de l'évangile et ceux qui n'en sont pas dignes? Si tel est notre cas, les petites listes secrètes que nous avons au fond du cœur, nous ne sommes pas comme Christ est. Nous ne sommes pas, sur ce point-là, disciples de Jésus-Christ. Premier point de ce texte, ce qui pousse Jésus-Christ à opérer ce miracle, c'est qu'il fut pris de pitié pour la foule, et c'est la manière dont il considère tous ces hommes et ces femmes qui sont autour de lui. Est-ce que nous avons le même regard sur les gens qui nous entourent? Sommes-nous saisis dans nos tripes, pris dans nos entrailles? Deuxième enseignement de ce texte, hein, et je saute tout de suite à la fin. À la fin du miracle, Marc mentionne que tout le monde avait bien mangé. Franchement, la carte du menu, géniale. D'ailleurs, il y avait du rabe. Cela nous est dit, il y avait là environ 4000 hommes, et on ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Alors on pourrait disserter sur la taille de ces corbeilles. En fait, il est à parier que Marc, s'adressant à ses contemporains, lorsqu'on parlait d'une corbeille de cuisine, il fait sans doute référence à une unité de mesure que tout le monde devait connaître, et que, pour le coup, nous ne connaissons plus aujourd'hui parce que nous n'avons pas les mêmes références. Mais on peut imaginer qu'il y avait 7 corbeilles. En fait, que veut nous dire Marc? C'est qu'il y avait du rabe et pas qu'un peu. Et cela nous dit quelque chose de Dieu. Je ne sais pas comment vous, ce que vous connaissez de Jésus, ce que vous connaissez de Dieu. Mais lorsque Dieu témoigne de sa bonté, lorsque Dieu fait quelque chose, il y a du rabe. C'est dans le cœur de Dieu. Ça déborde. Dieu est un être qui, fondamentalement, dans son essence, dans sa nature, est généreux. Parce qu'il se plaît à donner à ses enfants ce qui est nécessaire pour vivre. Et ici, nous le voyons, nous avons affaire à un besoin tout à fait simple, fondamental, essentiel à la vie, un besoin primaire. Lorsque vous avez un besoin et que vous le remettez au Seigneur, qu'attendez-vous de sa réponse? Qu'il donne juste un peu? Qu'il donne ce qu'il faut? Qu'il donne beaucoup, passionnément, à la folie? Dieu se plaît à démontrer sa générosité à ses créatures. Quand Dieu pourvoit, il y a du rabe. Et vous avez peut-être déjà fait cette expérience dans votre vie où, finalement, lorsque vous regardez un peu dans le rétro de votre existence, vous vous rendez compte que, souvent, le Seigneur a répondu au-delà de vos espérances. Parce que c'est Dieu. J'ai grandi au côté, dans ce village dans lequel je reviens, donc le terrain de foot, mais la maison d'à côté, c'était ma grand-tante et mon grand-oncle qui habitaient. Et j'ai le souvenir de ma grande-tante, qui est décédée depuis de nombreuses années, d'une personne qui était fondamentalement généreuse. Et je savais pourquoi j'allais la voir quand j'étais un petit garçon. J'étais toujours sûr d'avoir un bonbon, un carambar, un chewing-gum, d'avoir quelque chose. Et sa générosité disait quelque chose de son caractère, de qui elle était. Et ici, l'Évangile nous dit quelque chose de Dieu, de la générosité de Dieu à notre égard. Dieu donne, et quand il le fait avec abondance. Troisième point, qui est un tout petit peu plus compliqué, mais qui est certainement le centre principal, l'intérêt principal de ce texte. C'est l'attitude des disciples. Vous imaginez les 12 disciples, le premier cercle de Jésus-Christ, les premiers spectateurs des miracles, c'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un dans la foule qui était précisément à l'endroit où il fallait être lorsque le miracle s'est produit, c'est bien les disciples. Ils ont eu les meilleures places lorsque Jésus a fait ses guérisons, lorsque Jésus a opéré des signes miraculeux. Et je vous rappelle que c'est le deuxième miracle de multiplication des pains. Deuxième contexte, identique à celui de Marc 6. Et Jésus pose la question, j'ai pitié de sa foule, ils n'ont rien à manger, qu'est-ce qu'on va faire? Là encore, quelle aurait été la réponse attendue des disciples. Quelle aurait été la réponse attendue des disciples? Bah, Jésus, s'il te plaît, Marc 6 bis. Hein. Ce que tu as fait en Marc 6, mais refais-le maintenant en Marc 8. Et on voit les disciples qui ont été les témoins de la première multiplication des pains, finalement, ne même pas être en mesure d'envisager sur leur radar la possibilité d'un miracle. Que font-ils? Analyse du contexte, lieu désertique, pas de grande surface à proximité, pas d'intermarché, donc gros problème. Où trouver de la nourriture? Il me semble que l'on peut s'identifier aux disciples. Nous connaissons peut-être Jésus depuis des années, comme les disciples qui cheminent avec lui depuis un certain nombre de temps. Et quand l'impossible se présente à nos yeux, quel est notre réflexe? Analyse de la situation pour conclure que il n'y a aucune issue possible. Ou alors nous nous basons sur nos expériences du passé pour nous dire « Seigneur, tu as été fidèle dans les temps passés, tu es intervenu de manière miraculeuse et maintenant je veux croire en ta fidélité et en ton intervention. » Comment réagissons-nous? D'ailleurs, la suite du texte est assez intéressante, puisque l'épisode des disciples, qui finalement sont plutôt en mode incrédulité qu'en mode foi active, l'épisode se poursuit après le verset 10. Après le verset 10, il y a des pharisiens qui arrivent auprès de Jésus, ils discutent avec lui et ils réclament un miracle. L'idée, c'est de dire, Jésus, nous on va croire en toi, c'est-à-dire on va croire que tu es réellement Dieu, si tu fais un miracle devant nous, alors qu'un miracle venait de se produire. Et que dit Jésus? Il ne leur sera donné aucun miracle. Fin de la journée, les disciples se retrouvent avec Jésus, ils montent dans la barque, et là, ils se rendent compte qu'ils ont oublié de prendre du pain. Franchement, un comble avec 7 corbeilles de rab. C'est du gaspillage. Ne pas avoir songé à dire, mais là, on est tranquille pour 8 jours. Non seulement ils ne voient pas le miracle, mais d'un point de vue logistique, on se rend compte que ce n'est pas le fort des disciples. Et Jésus leur dit, une fois qu'ils sont dans la barque, faites attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Et là, chez les disciples, ça commence à mouliner fort dans la tête. Alors, pain, levain, se garder du levain, donc certainement que Jésus est en train de nous reprocher de ne pas avoir pris du pain avec nous. Ça, c'était la pensée des disciples. Et que dit Jésus? Pourquoi discutez-vous? Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Et Jésus poursuit en disant, pourquoi? Ne comprenez-vous donc pas? Ne saisissez-vous donc pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5 000 hommes? Combien de pains pleins de morceaux avez-vous remporté? Marc 6. 12, répondirent-ils. Déjà en Marc 6, il y a du rabat. Et quand j'ai partagé les 5 pains entre les 4 000 hommes, combien de pains pleins, de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et Jésus qui termine en disant, mais vous ne comprenez toujours pas? En fait, que veut dire Jésus? Jésus est en train de le dire, mais c'est pas grave si vous avez oublié le pain. Je suis là. Vous ne comprenez pas? Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? On peut même oublier des choses avec Jésus. Jésus est en train de démontrer qu'il est celui qui pourvoit à chaque instant et en tout temps aux besoins, en l'occurrence de ses disciples, mais aussi aujourd'hui, aux nôtres. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Vous ne pourrez jamais tomber plus bas que dans la main de Dieu. Et les disciples ont du mal à reconnaître Jésus pour qui il est vraiment. D'ailleurs, il est significatif qu'ensuite, le miracle qui va suivre est celui de la guérison d'un aveugle, où Jésus va s'y prendre en 2 fois. C'est ce miracle où d'abord L'aveugle voit, après une première intervention de Jésus, des silhouettes, mais Jésus est obligé d'intervenir une deuxième fois pour qu'il voit vraiment Jésus pour qui il est. Et le fait que le miracle soit à cet endroit, avec toute la problématique qui tourne autour des disciples qui ont du mal à reconnaître Jésus pour qui il est, démontre que ce texte n'est pas là par hasard. Que c'est Jésus lui-même qui est obligé d'intervenir dans notre cœur pour que nous puissions comprendre qui il est vraiment. D'ailleurs, quel est l'épisode qui suit, encore une fois, si nous poursuivons dans l'évangile de Marc ? Nous arrivons au verset 27 de ce chapitre 8, et c'est la question que Jésus pose à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est là où Pierre dit « Mais tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. » Et que lui répond Jésus ? « Cela t'a été révélé. » En d'autres termes, nous ne pouvons pas comprendre qui est Christ réellement dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, si lui-même n'intervient pas pour éclairer, ouvrir notre intelligence et ouvrir nos yeux. Et pour que cela devienne dans notre quotidien quelque chose de réel. Pendant des années, nous pouvons marcher en mode disciple, être aux côtés de Jésus, le connaître, mais sans jamais aller jusqu'au bout de ce que nous croyons, sans jamais dépendre de manière complète à la personne de Christ. Pourtant, c'est ça, ce à quoi Christ veut nous amener. Vivre dans une dépendance complète à son égard. Oser lui faire confiance parce qu'il est Dieu. Et dans ce cas-là, que craindre ? Vous ne comprenez toujours pas ? Mot de conclusion et mot de fin. Fin, F-I-N, bien sûr, vous l'avez compris. Je me mets à la place d'un juif, un israélite du temps de Jésus, qui est dans un village dans lequel Jésus arrive, et je suis ébéniste, je pose mon rabot, et j'ai ce Jésus qui est là, dont on me parle tant. Je le suis pendant les 3 jours, et effectivement, au bout de 3 jours, je commence à avoir faim, mais cet homme est tellement extraordinaire que je suis là et que je l'écoute. Je suis un juif qui connaît toute l'histoire de l'Ancien Testament, un enfant du peuple d'Israël qui a grandi avec les histoires de Moïse, avec les histoires du peuple d'Israël qui est emmené dans le désert, avec l'histoire de la mer qui s'ouvre. Et voilà que je me retrouve à Marc 8, avec un moment, le disciple qui passe devant moi avec une corbeille, qui me donne un morceau de pain et qui me donne un bout de poisson. Et je suis là en tant qu'Israélite, et tout d'un coup, à quel récit cela me fait-il penser de l'Ancien Testament ? Ça vous rappelle quelque chose ? La manne dans le désert. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête de... Ce qui se passe dans ma tête de dire, mais cet homme, c'est un nouveau Moïse. Cet homme, on est en train de revivre exactement la même chose que ce que le peuple d'Israël a vécu. Ce que l'on m'a toujours raconté, que je connais l'histoire, que je connais, elle est en train de se répéter sous mes yeux. Avec une carte de menu qui a changé, manne dans le désert, poisson et pain dans le Nouveau Testament. Changement significatif. C'est plutôt de l'humour, hein, si vous n'avez pas compris ce dernier point. Et de dire ce Jésus, c'est un nouveau Moïse. Dieu tient donc ses promesses. Et là où je veux en venir pour conclure, c'est souligner ce parallèle qui peut fonctionner aussi de la même manière dans notre vie aujourd'hui. Je m'explique. Il y a eu ces hommes et ces femmes qui ont connu Moïse et qui ont connu son intervention dans le désert. Il y a ces Israélites au temps de Jésus qui connaissaient l'histoire de l'Ancien Testament et qui tout d'un coup se trouvent, histoire qui animait leur foi, c'est-à-dire qui connaissaient ces récits de l'Ancien Testament mais dont ils n'avaient qu'entendu parler. Et tout d'un coup, ce récit, ce qui est dit, devient réel et concret, puisque Dieu lui-même en Jésus-Christ est là devant eux et il les nourrit. Et que cela peut être notre histoire aujourd'hui, peut-être que nous avons entendu parler de ces récits de la Bible, peut-être que nous avons grandi avec ces récits. Et peut-être qu'à un moment, cela s'est peut-être déjà passé, peut-être que cela est en train de se passer ou que cela va se passer. Mais il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire que Dieu est intervenu dans ma vie, dans mes circonstances, de manière particulière, de manière miraculeuse. Et c'est un peu une expérience similaire à ceux qui sont présents au temps de Jésus. Ils avaient entendu parler d'eux, mais un jour ils l'ont rencontré. Peut-être que vous avez entendu parler de Dieu, de la Bible, de l'évangile de Jésus, mais qu'il vous manque cette expérience où Dieu intervient dans votre situation de vie parce qu'il a pitié de vous. Et ce n'est pas parce que vous lui faites pitié, hein, ce n'est pas pareil. Par compassion, parce qu'il veut vous montrer sa bonté. Et que du coup, vous avez aussi, comme ces gens de l'Évangile, l'histoire qui rejoint ma réalité, qui rejoint l'intervention de Dieu dans ma vie. Et peut-être que là, un SMS qui un jour vous dit « Je t'aime », et si c'est Jésus qui le fait, aura peut-être du sens. Et aura un écho dans votre cœur. Parce que cela rime à quelque chose et cela a du sens.